Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les personnes vivant avec handicap se disent très marginalisées au sein de la société. Elles accèdent difficilement à un emploi décent et ne bénéficient guère des conditions de vie meilleures. Alors comment promouvoir leur épanouissement social? Je le disais, nous avons pour invité, pour en parler, Alice Mirimo, directeur général du Fonds National de Promotion des Services Sociaux. Et je rappelle le numéro des contacts si vous êtes intéressé. Appelez au 081-890-63-94. Alors, Madame Alice Mirimo, la première question à vous poser, c'est celle de savoir quel est aujourd'hui l'état des lieux de la situation de la personne vivant avec handicap en RDC.
Je vous remercie d'abord de m'avoir donné ce temps précieux pour que je fasse la restitution de ce qui s'est passé la semaine passée. Nous avions eu une grande table ronde qui a été organisée sous forme d'un atelier de haut niveau sous le haut patronage du président de la République. Et cet atelier avait effectivement pour thème « Tous pour le développement inclusif qui intègre la question du handicap ». En fait, l'état des lieux de problèmes de personnes handicapées dans notre pays est très sombre. Les personnes handicapées, évidemment, se retrouvent dans un tout, dans toute notre société, qui fait face à des problèmes liés aux difficultés d'accès aux services sociaux de base, tels que la santé, l'éducation, le logement social et la nutrition et tant d'autres problèmes qu'ils ont. Ils ont beaucoup de problèmes liés même à la mobilité par rapport aux appareils orthopédiques et consorts.
Oui.
Bon, c'est des problèmes très sérieux, mais l'État n'est pas resté indifférent. L'État a déclenché tout un processus qui a été appelé processus des États généraux sur la situation des personnes handicapées, qui a commencé en 2010. Mine de rien, ça fait 6 ans pratiquement.
Oui.
Mais ce processus avait l'avantage de se retrouver dans un grand programme du gouvernement, qui, au fait, c'est un programme qui devait d'abord restaurer le rôle du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi il y a ce ministère. Parce qu'en réalité, tout le gouvernement est social. Au fait, dans le gouvernement, il y a le ministère de la Santé, de l'Éducation. Oui. En fait, tous les ministères sont sociaux. Mais pourquoi le ministère des Affaires sociales? En fait, c'est ce ministère qui assure la coordination de l'action sociale et humanitaire du gouvernement.
Le Fonds national de promotion des services sociaux relève donc de
ce ministère. Ah,
exactement.
En fait, le Fonds national de promotion des services sociaux, c'est un ancien fonds de notre pays qui s'appelait à l'époque coloniale Fonds du bien-être indigène. Et qui a toujours le rôle d'appuyer l'action sociale du gouvernement dans son ensemble. Mais il se retrouve aux affaires sociales parce que le ministre des Affaires sociales en assure la tutelle. C'est l'autorité des tutelles. Donc celui qui fait le contrôle direct au niveau de cet établissement public. Et donc, cette restauration de ce rôle de coordination de ce ministère a déclenché tout un processus de prise en charge des vulnérables. Et c'est donc ce processus a commencé en 2010, comme je l'ai dit, suite à un mot d'ordre que les chefs de l'État avaient donné à l'époque de faire de l'année du cinquantenaire année du social. Et ça a donc déclenché toute une feuille de route au niveau de ce ministère pour non seulement restaurer son rôle de coordination, parce qu'il y a trop de tâtonnements hein,
oui,
dans les questions sociales. C'est tout le monde qui vient, chacun a son agenda, chacun a son enveloppe, et il n'y a personne qui doit demander qu'est-ce que vous voulez faire. Et donc, ce ministère-là, c'est donc la ministre des Affaires sociales, en réalité, qui coordonne l'action sociale.
Donc, il fallait bien clarifier les choses.
Il fallait clarifier les choses. Et pour cela, le gouvernement avait donné 3 outils à ce ministère en 2012. C'était à l'issue un conseil des ministres présidé d'ailleurs par le chef de l'État lui-même. Et c'est là, ces outils sont en concordance avec le programme du gouvernement qui avait été défendu par le Premier ministre au Parlement en 2012, lorsqu'il a été investi Premier ministre. Et donc, ces 3 outils sont notamment le décret fixant les statuts du Fonds national de pension et réserve sociale. Je l'ai dit tantôt, c'est un établissement public qui existe depuis l'époque coloniale, donc il fonctionnait encore avec des ordonnances des années 60, et donc il fallait d'abord actualiser son mode de gouvernance. Le deuxième outil, c'est le décret qui organise les cadres de concertation humanitaire, parce que je vous ai dit que c'est la coordination de l'action sociale et humanitaire.
Oui.
Et le troisième outil, là où s'inscrit maintenant le projet des personnes handicapées, c'est le plan stratégique et financier du Fonds national de pension et de services sociaux 2012-2016.
Voilà, ça c'est important. On va évoquer ces plans pour savoir ces plans quinquennal 2016. Vous avez parlé d'abord du premier plan.
Non, ça c'est d'abord le plan stratégique.
Plan. Tout à fait. Il y a un deuxième plan
qui
voilà.
donne naissance aux autres plans, aux autres plans. Sectoriels.
Mais malgré tout ça, vous avez dit le bilan est tout de même sombre. Hein?
Le bilan est sombre, mais il fallait déclencher tout un processus de prise en charge de l'action sociale dans notre pays.
Oui.
Parce que le personne handicapée se retrouve dans la société congolaise. Donc, on ne peut pas les prendre de façon isolée. Il fallait d'abord trouver une programmation globale de toute la population congolaise. Et c'est là où je dis que tout ça s'est retrouvé maintenant dans le plan stratégique et financier du fonds. Ce plan adopté en 2012 par le gouvernement a 81 projets sociaux et humanitaires. Mais en 2014, le gouvernement en a priorisé 14. Notamment les états généraux sur la situation de personnes handicapées.
Voilà.
Et ces états généraux, en fait, avaient trois résultats importants.
Oui.
Le premier, c'était de faire l'état des lieux sur la situation de personnes handicapées.
Oui.
Cet état des lieux, nous l'avons fait sous forme d'une enquête qualitative qui s'est déroulée dans nos 11 anciennes provinces, donc les 11 chefs-lieux des 11 anciennes provinces. Ça a fait d'ailleurs 2 mois, notre enquête, là. Ça s'est passé sous forme de focus group.
Oui.
Cela nous a permis de connaître les besoins réels des personnes handicapées.
Madame, on va poursuivre, parce que là, maintenant, avec tout ce que vous avez comme plan, comme atelier, vous connaissez les besoins réels. Donc, on va découvrir qu'est-ce qui va être effectivement fait pour la promotion des personnes vivant avec handicap. On va découvrir tout cela au cours de cette émission, puisqu'il y a déjà des auditeurs qui sont en ligne et qui aimeraient intervenir. Il y a Étienne Katumanga, qui nous appelle du Kananga. Il y a également Clément Daye, qui est dans la même ville. Nous rappelons le numéro des contacts. Si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, nous parlons de comment promouvoir l'intégration sociale des personnes vivant avec handicap avec Alice Mirimo, directeur général du Fonds national des promotions des services sociaux, dont vous pouvez donc appeler au 081-890-6094. On prend le premier auditeur, Étienne Katumanga, qui est à Kananga. Bonjour Étienne.
Bonjour monsieur Marcel, bonjour à notre invité. Ah, j'ai deux questions. La première, j'aimerais un peu demander à notre invité, est-ce que les personnes vivant avec le NUMI SS peuvent être classées parmi les personnes vivant avec handicap? Parce que cette maladie fait souvent perturber le budget familial. Donc, le parent elle-même n'arrive même pas à se tenir. Est-ce qu'il y a-t-il des organismes internationaux qui prennent les personnes vivant avec le NUMI SS en charge? S'il y en a, il peut me le citer. Ok, deuxième question. Lorsque une personne vit avec le VIH, lui-même est sûr qu'il en a. Mais par sa mauvaise foi, il veut propager cette maladie dans la société en appliquant le débauche incontrôlé. Donc, une personne animée de la mauvaise foi, quels que soient les conseils que le corps médical lui donne un peu de s'abstenir, la personne refuse pour dire que moi qui ai eu cette maladie, qu'est-ce que je fais à Dieu? Il fallait que nous puissions partir nombreuses. Est-ce que ce genre de personnes, n'est-ce pas qu'il se fait exclure lui-même dans la société? Merci beaucoup.
Merci Étienne. Katumanga depuis Kananga. Clément Ndaye, vous êtes dans la même ville. Bonjour Clément.
Bonjour Marcel, bonjour aussi à l'invité de la Radio Capi. Je voudrais juste demander à l'invité qu'il me définisse d'abord celui qu'on peut appeler handicapé. Puisque selon ce que je remarque ici à Kananga, il y a des gens qui ne sont pas handicapés, mais qui se mettent à mendier, soit à tendre la main comme handicap. J'aimerais que tu me définisses ce qu'on peut appeler handicapé. Et aussi la deuxième des questions, selon ce que j'ai remarqué intérieurement, j'ai constaté qu'il y a les écoles construites normalement pour les sourds muets. On appelle autrement dit Antiluba Tumama. Il y a les écoles Mpandilu qui prennent vraiment soin de ces gens et qui les transmettent normalement une connaissance exacte. Mais je voudrais juste demander à l'invité, pourquoi on ne veut pas normalement construire les écoles pour les handicapés? Puisque je vois ces gens-là qui ne sont pas encadrés je le vois en train de monter, de descendre, en train de mendier sur le croisement des avenues. Mais qu'est-ce qu'il fallait normalement pour qu'on construise les écoles pour les handicapés? Voilà mes petites préoccupations, Marcel, et je vous dis merci.
Allô? On dit merci à Clément qui nous a appelé du Kananga. On revient à vous, à Madame Alice. Alors, vous avez suivi d'abord Étienne qui a cherché à savoir si les personnes vivant avec l'anémie SS peuvent être considérées comme des personnes vivant avec handicap. C'est d'ailleurs ici l'occasion de rejoindre cette préoccupation de second auditeur qui a cherché à ce qu'on comprenne qu'est-ce qu'on entend par personne vivant avec handicap. Madame Alice.
Oui, merci beaucoup. En fait, comme je l'ai dit tantôt, le processus des états généraux se retrouvait dans un cadre, un comité de pilotage qui avait été mis en place par le ministre des Affaires sociales. Au fait, les débats, effectivement, au départ, c'était de savoir qui est personne handicapée.
Oui.
Et à son temps, en dehors des personnes handicapées que nous connaissons, c'est-à-dire les aveugles, les sourds, les moteurs, nous avons intégré les personnes albinos. Parce que parmi eux, il y a aussi ceux qui souffrent de toute cette marginalisation. Et je me rappelle effectivement ce jour-là, parce que dans notre comité de pilotage, il y a le ministère de la Santé, il y a l'Organisation mondiale de la santé, Handicap international. Effectivement, quand nous avons pris les personnes albinos, il y a même quelqu'un qui a dit, bon, donc même les personnes qui souffrent de l'anémie SS, tout le monde qui a des problèmes de santé doit être considéré comme personne handicapée.
Oui.
En fait, pour éviter que cela englobe tout le monde, parce que au fait, chacun de nous a toujours une certaine forme de handicap.
Oui.
Moi-même, je porte des lunettes, donc j'ai déjà des difficultés pour lire. Alors, nous avons quand même pris le soin de respecter le cadre mondial qui existe. C'est la Convention internationale des Nations Unies, évidemment, relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention définit le handicap. Je vais y revenir tantôt. J'aimerais d'abord apaiser l'invité, parce que j'ai vu là parler des personnes avec le sida et consorts. Je pense qu'ici, nous sommes sur une question spécifique qui concerne les personnes handicapées et qu'est-ce que le gouvernement veut donner comme réponse par rapport à cette question-là. J'aimerais préciser ici que ce qui a été le temps fort et pourquoi même l'atelier est devenu un atelier de haut niveau, c'est parce que à l'issue du processus, le gouvernement s'est rendu compte qu'il doit faire une option, un choix politique. Et le choix politique qui a été fait, c'est l'inclusion sociale. Et quand on parle de l'inclusion sociale, ça signifie non à la discrimination, non à priver, même si vous êtes anémique, vous avez quel problème, l'État ne peut plus vous priver de vos droits. Et c'est ce que j'ai dit, les déclenchements de l'inclusion sociale s'est passé avec la situation, avec les personnes handicapées. Et c'est ça qui a donné même le tonus, si je peux dire, à cette activité. Parce qu'au fait, c'est l'essor pour tous les Congolais. Pour tous les Congolais, les programmes qui vont être mis en place ne vont pas choisir tel ou tel. C'est tous qui serons intégrés.
Voilà, donc c'est ça dans l'inclusion sociale. Alors, vous parlez des besoins réels. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces besoins réels des personnes vivant avec handicap et sur les stratégies mises en place avant d'accorder la parole à deux auditeurs qui sont en ligne?
Les besoins réels. D'abord, oui. On a constaté ensemble avec eux que les personnes handicapées souffrent des problèmes de discrimination et des non-acceptations. Déjà, dans certaines familles, il y a des enfants qui ont été même rejetés. Et nous avons même appris, durant les focus group, durant la collecte de données, qu'il y a même des villages chez nous, donc dans notre pays, où dès que l'enfant est handicapé, on les tue. On les tue dès la naissance. On dit que c'est quelqu'un qui a amené un mauvais sort.
Malédiction dans la famille.
Malédiction et tout. La plupart, et ça nous avons constaté dans la plupart des églises aussi, ils sont taxés de sorciers. On dit qu'ils sont sorciers, ils ont des démons. Et ça, c'est vraiment terrible. Donc, la discrimination va même plus loin. Il y a des personnes albinos, par exemple, on a vu dans certaines de nos provinces, ils sont tués, leurs organes génitaux sont utilisés pour donner, il paraît, des chances.
Oui.
On a même vu dans une province où les personnes albinos ont dit qu'ils, grâce à eux, ils guérissent le sida. Bon, donc c'est des choses comme ça pour la maltraitance.
Oui.
La maltraitance, il y a même des endroits où on les brûle même vifs Parce que, bon, c'est vraiment un malheur d'avoir ces personnes.
Donc vous avez pinglé la discrimination, la maltraitance.
La maltraitance. Oui. On a aussi constaté qu'ils ont des difficultés pour avoir des appareils orthopédiques. Oui. J'ai vu, et ça m'a fait très mal, parce que dans pendant l'atelier, nous avons appelé aussi nos compatriotes vivant avec handicap des provinces. Toutes les 26 provinces ont été représentées à ces assises. Et c'était choquant de voir nos compatriotes monter dans l'avion, entraînant les pieds par terre. Il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de tricycle, et ça fait très mal. Et tout ça, c'est tout un problème global, parce que pour avoir ces appareillages-là, ça coûte très cher, oui. On ne sait même pas où est-ce qu'on les fournit, on doit faire des commandes à l'extérieur. Donc, ils font face à beaucoup de défis. La plupart ne vont même pas à l'école, parce que certains parents considèrent que, bon, c'est déjà un enfant qui ne pourra rien faire, donc inutile d'investir et tout ça.
Donc, je pense bien dans le plan stratégique 2012-2016, vous évoquez tous ces problèmes.
Effectivement, les axes stratégiques ont été ciblés par rapport d'abord aux thématiques qui sont dans la Convention internationale. Oui. Il y a les droits à l'éducation. Déjà, d'ailleurs, par rapport aux droits à l'éducation, notre pays est très avancé parce qu'avec la loi qui avait été promulguée par le chef de l'État, on a consacré déjà l'enseignement spécial. Donc, nous avons aussi les aspects des droits à la santé.
Vous savez, il y a un auditeur qui a parlé des écoles pour le surmué.
Oui, il y en a. Il y en a d'ailleurs notre pays, Anna, même sur,
mais c'est pas
au
suffisant.
Niveau du ministère des Affaires sociales, nous avons l'Institut national pour aveugles, c'est pas suffisant. Et le plan stratégique, effectivement, vient nous montrer les stratégies pour que nous puissions ouvrir les horizons pour nos compatriotes.
Voilà. Poursuivons avec les deux auditeurs qui sont en ligne. Patient Chitoko, qui nous appelle de Lubumbashi, et Félicien Kindoula, qui est à Kinshasa. Patient Chitoko, bonjour.
Bonjour chers journalistes, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment.
On vous écoute patient.
Oui, bon, pour moi, je voulais d'abord, j'ai deux préoccupations. La première est la suivante, je vais commencer par ces constats.
Oui.
Quand j'ai sillonné partout sur la ville de Lubumbashi, j'ai compris qu'il y a trop de gens, trop de personnes qui vivent avec un handicap. Alors, ces gens sont vraiment, ils se voient vraiment abandonnés, laissés, les gens qui ont vraiment de moindres valeurs. Alors, je voulais demander à notre invité quels sont les conseils vraiment qu'il peut donner à ces gens-là qui maltraitent les handicapés et autres. Et puis, la deuxième question, je voulais savoir, parce que j'ai trouvé encore une famille ici à Lubumbashi, il y a trop d'albinos là. Alors, pour cette famille, les albinos, ce sont les gens qui vivent avec un handicap, donc ils sont abandonnés, ces albinos. Alors, je voulais savoir juste la différence qui existe. Est-ce qu'il y a quand même une différence où que l'albinos aussi, c'est quelqu'un qui vit avec l'handicap? Merci, j'ai dit quelques promesses.
Merci, Patient Chitoko, depuis Lubumbashi. On revient à Kinshasa pour retrouver Félicien Kindoula. Bonjour, Félicien.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité.
On vous écoute?
Oui, j'étais en train de dire que toutes ces situations, nous ne savons pas à qui nous devons nous adresser. Parce que sous d'autres cieux, vous voyez que quand on construit même une maison en étage, on prévoit une voie pour l'entrée des vélos, des handicapés qui doivent entrer avec leurs vélos. Le bus, même on a prévu que la portière du bus peut descendre plus bas pour que ceux qui ont des vélos puissent monter. Alors, ici chez nous, on construit des maisons, on achète des bus, on ne prévoit pas ça. C'est-à-dire que ceux qui nous gouvernent eux-mêmes ne tiennent pas compte de cette catégorie de personnes. On n'a jamais pensé que les produits pharmaceutiques pour les albinos coûtent cher et qu'il y ait des pharmacies de l'État ou qui devait importer ces produits pour les vendre à moins cher. On n'a jamais prévu des pharmacies pour les enfants SS où on devait avoir des produits à moins cher. Même par contre, on trouve que des handicapés qui se promènent avec des cartes ou je sais quoi, des lettres pour aller déranger des gens dans des établissements ou des entreprises. Mais qu'est-ce que la population peut faire quand nous avons payé nos impôts, quand nous avons payé nos taxes Mais c'est l'État qui doit s'occuper des problèmes sociaux de toutes les catégories. Ça doit être encore le problème des individus. Moi, je pense que tout cela, ça montre que nous sommes dans une malgouvernance de la République et nous devons interpeller ceux qui nous gouvernent et nous ne devons pas être là en train de nous plaindre nous-mêmes. Qu'est-ce qu'ils font pour que la vie soit belle pour chaque catégorie des personnes dans la société?
Voilà.
C'est là le problème. Oui.
Merci Félicien Kindoula d'avoir appelé Kinshasa. Madame Alice, vous avez d'abord suivi un patient qui est revenu sur un problème réel que vous avez même évoqué parmi des besoins réels auxquels il faut trouver des stratégies, où vous avez mis en place des stratégies, des solutions, c'est la maltraitance, la discrimination. Il a parlé à Lubumbashi, des personnes vivant handicap, dans quelles conditions ces personnes vivent également. De tout ce qui est comme discrimination des personnes handicapées, vous avez évoqué que par rapport au plan stratégique 2012-2016, vous avez évoqué tout ça. Et alors, c'est quoi, par exemple, pour la maltraitance, qu'est-ce qui est préconisé comme stratégie?
Voilà. En fait, je vous ai dit que l'état des lieux nous a permis de regrouper tous ces besoins et les attentes des personnes handicapées. J'aimerais rassurer notre auditeur que les albinos ont déjà été intégrés parmi les personnes handicapées. Mais avant d'évoluer, j'aimerais quand même donner la définition de handicap selon la convention, parce que j'ai dit que nous tous, le document clé, oui, c'est la convention. La convention internationale dit, on n'attend pas personnes handicapées, les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles, durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. C'est ça le handicap. Et quand vous voyez cette définition, c'est très globalisant.
Oui.
Par rapport maintenant aux solutions. En fait, on ne sait pas trouver des solutions pour une personne ou deux. Les solutions sont globales. Et là, j'atterris à ce que je voulais dire tantôt. Parmi les résultats de ce processus, il y avait aussi notamment mettre en place des stratégies efficaces pour prendre en charge réellement nos compatriotes avec
là, vous répondez directement à Félicien.
Oui, et cette stratégie, c'était à trois niveaux. Oui. D'abord, au niveau du pays, la position du pays par rapport à la Convention internationale des Nations Unies. Et par rapport à cette position du pays, le chef de l'État a posé tous les actes qui étaient de son devoir. Il a promulgué la loi pour adhérer à cette convention. Et il a signé l'instrument d'adhésion à cette convention le 14 septembre 2015. Cet instrument est dans notre site web et partout, et même sur le site des Nations Unies et même au journal officiel. Et donc, après avoir signé tout ça, le président a donc déclaré que le pays s'engage à appliquer cette convention sans la violer même pour une minute. Deuxième aspect de solution, c'était la législation interne. Et ici, j'ai dit tantôt que le président lui a fait tout ce qui était de son devoir. La constitution de notre pays, adoptée en 2006, a prévu déjà son article 49 qu'une loi organique doit organiser la protection et la promotion des personnes handicapées. Évidemment, cette loi traîne au Parlement. Nous avons eu l'occasion aussi de faire un plaidoyer auprès de parlementaires pour qu'ils libèrent cette loi. Parce que c'est un déclic pour beaucoup de choses dans notre pays. Et troisièmement, c'était la planification stratégique. Cette planification stratégique, nous l'avons fait dans un premier temps pour 5 ans, 2016-2021. Et il y a plusieurs axes stratégiques, notamment l'organisation d'abord de l'autonomisation économique des personnes handicapées. Mais ce sont des grands entrepreneurs. Beaucoup d'œuvres d'art que vous voyez circuler, oui, sur la route, c'est fait par eux. Ils sont dans l'artisanat. Ils sont même dans l'agriculture. Moi,
il faut mieux les encadrer.
Il faut juste les encadrer. Oui. Et d'ailleurs, le ministre de l'économie était là pendant les travaux pour montrer les stratégies qui sont au niveau de son ministère par rapport à l'autonomisation économique des personnes handicapées. Il y a aussi l'accès à la santé. Le ministre de la Santé lui-même était impliqué. D'ailleurs, notre ministre a organisé cette activité avec sa collaboration. Donc, ils ont déjà d'ailleurs beaucoup de choses là-bas par rapport à la réadaptation à base communautaire. Il y a aussi l'enseignement. Je vous ai dit que l'enseignement spécial est maintenant organisé dans la loi cadre qui a quitté le Parlement et promulguée par le chef de l'État. Et donc, les stratégies qui sont dans le plan stratégique, c'est pour voir comment maintenant organiser les écoles. Il y a aussi l'aspect des aménagements raisonnables. Et c'est là où je rejoins, c'est l'auditeur qui dit même dans le place publique, il n'y a pas moyen que nos compatriotes accèdent. Ça fait partie de l'état des lieux et ça a déjà une réponse au niveau
Il y a déjà une stratégie mise, oui, en place par rapport à tout cela. On va poursuivre avec vous, Madame Alice Mirimo, avec ce sujet sur comment promouvoir l'intégration sociale des personnes vivant avec handicap. Si vous êtes intéressé par ce sujet, vous voulez appeler le numéro d'appel. En tout cas, n'hésitez pas. Composez les 081 890 63 94.
Pays des Léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Okapi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Okapi vous donne la parole. Okapi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Comment promouvoir l'intégration sociale des personnes vivant avec handicap, Madame Alice Mirimo, directeur général du Fonds national des promotions des services sociaux, est notre invité. Nous avons des auditeurs en ligne, Albert Mwananga qui nous appelle de Kananga et Constant qui est à Kinshasa. On écoute Albert Mwananga.
Bonjour monsieur journaliste.
Et bonjour Albert, on vous écoute.
Oui, j'aimerais poser un peu une question à notre invité. Et quelle est la vraie politique envisagée par le gouvernement congolais à travers son ministère approprié pour la réussite d'intégration sociale des personnes handicapées? Dans le même ordre d'idée, j'aimerais poser à l'invité parce qu'elle parle un peu des lois, des projets de la tout ça, mais est-ce que le problème se pose au niveau des lois ou bien se pose au niveau de la gouvernance? C'est ça un peu ma préoccupation. Merci beaucoup.
Merci Albert. Depuis Kananga, on revient à Kinshasa pour accorder la parole à Constant. Bonjour Constant.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité du jour.
On vous écoute Constant.
Moi je voulais demander à l'invité si les personnes vivant avec handicap peuvent aussi avoir le droit de travailler à la société. Et deuxième question, j'aimerais savoir, pour les enfants qui naissent avec handicap, qui est la forme de cet handicap-là? C'est des questions que je voulais savoir auprès de l'invité du jour.
Voilà, merci Constant. Depuis Kinshasa, on revient à vous, Madame Alice Mirimo. Oui. Vous avez suivi Albert qui a parlé de certainement c'est ce que vous êtes en train d'évoquer sur tout ce qui est un plan stratégique. Vous allez chercher à avoir encore et peut-être davantage une idée par tout ce qui va être fait, enfin pour promouvoir l'intégration sociale. C'est, il ne veut pas avoir de la vision politique. Vous étiez déjà en train d'en parler avec le chef de l'État qui a commencé par promulguer la loi et ensuite vous avez parlé également de tout ce qui est en train d'être fait avec ces forums de haut niveau pour essayer de passer au peine fin tous les besoins réels, c'est ce qui a été fait. Et maintenant, c'est le plan stratégique qui va être mis en œuvre. Peut-être
vous voulez encore qu'est-ce que nous faisons maintenant par la suite? Effectivement, c'était la grande question, qu'est-ce que nous faisons par la suite? En fait, j'aimerais d'abord assurer notre population que l'avantage qu'ils ont, c'est qu'au niveau du gouvernement, évidemment conduit par notre Premier ministre Matata Mponyo, ils ont tracé une ligne maintenant bien claire. En fait, le ministère des Affaires sociales a la politique social entre ses mains et il y a le Fonds national de promotion des services sociaux comme l'organe financier et technique pour l'exécution maintenant de tous les projets et pour la mobilisation de ressources. D'ailleurs, là, je souligne en passant que tous ces processus et même la table ronde qui s'est passée a été appuyée par le gouvernement à travers le Fonds national de promotion des services sociaux. Donc cet ancrage institutionnel, c'est déjà ça doit déjà rassurer notre population, c'est-à-dire on ne va plus travailler de façon dispersée ni avec des actions de tâtonnement. Et l'essence de cette stratégie alors je vous ai dit que la stratégie a comme mère et père les plans stratégiques et financiers du Fonds national de promotion des services sociaux. Le gouvernement a placé la Caisse nationale de solidarité, la Caisse de solidarité nationale au sein du fonds. Aussi, au niveau du fonds, le gouvernement a déclaré que le fonds doit jouer le rôle de banque sociale. Donc, nous avions aussi besoin de ces stratégies sectorielles pour les personnes handicapées pour arriver à commencer notre lobbying maintenant pour chercher les moyens afin de financer tous ces projets. Et donc, pour nous, c'est un outil très important pour la mobilisation de ressources. Et là, j'en appelle à tout le monde et surtout à nos compatriotes avec handicap. Ils ont un rôle clé à jouer dans la mobilisation de ressources et dans la gestion des projets. Parce que rien ne va se passer sans eux. Déjà, tout le processus avait un caractère tripartite. Il y avait les personnes handicapées elles-mêmes. Dans leur diversité, nous les avons vraiment vus. Ils ont des professeurs, ils ont des députés, ils ont des élèves, ils sont dans la diversité. et ils ont participé activement à toutes les étapes. Il y a les partenaires techniques et financiers qui ont aussi apporté leur apport technique. Et il y a aussi notre gouvernement dans sa diversité. En tout cas, chaque ministère a apporté ce qu'il a de particulier. Et d'ailleurs, durant l'état des lieux, la recherche de l'information sur leur situation, nous avons découvert qu'il y a beaucoup de projets et des actions sur le handicap dans beaucoup de nos ministères. Même le ministère de Travaux publics, même le ministère de l'Intérieur. Donc il y a beaucoup d'activités pour eux, mais comme c'était de façon dispersée, on ne le savait pas. Alors donc je vais vraiment rassurer l'opinion que maintenant nous savons où frapper. C'est le ministère des Affaires sociales.
Vous savez maintenant où frapper. Ça,
oui,
c'est
le
bien
ministère
dit.
Des Affaires sociales dans sa diversité. Donc ce ministère est organisé du gouvernement central vers le gouvernement provincial.
Et qu'est-ce que vous allez prioriser dans ces plans stratégiques? Est-ce que vous avez déjà des priorités?
Évidemment, nous avons des priorités. Oui. La plus grande priorité, c'est alimenter la caisse de solidarité nationale. Parce qu'il faut qu'il y ait des moyens.
Il faut qu'il y ait des
moyens.
Et
nous avons d'ailleurs discuté parce que les gouverneurs des provinces, en tout cas, nous avons reçu plus de 8 gouverneurs des provinces, les vice-gouverneurs des provinces étaient là, les ministres provinciaux des Affaires sociales étaient là. Et nous avons parlé déjà ensemble comment nous allons commencer. Et ce qui est particulier avec notre plan stratégique, c'est vrai que ça a été conçu au niveau national, mais toutes les actions vont commencer par la base. Et très bientôt, nous allons commencer le travail avec les gouverneurs des provinces parce que chaque province devra avoir son plan opérationnel pour donner des réponses rapides à cette question de personnes handicapées.
Voilà, on va finir avec cette question de Constant qui a cherché à savoir si une personne handicapée, il dit qu'il y a un problème au sein des entreprises. Hein. Il y a pas assez de gens qui ont un handicap qu'on recrute dans les entreprises.
La question de l'emploi était vraiment au centre et nous avons été honorés par le vice-premier ministre, le ministre de l'Emploi, qui a été désigné par le premier ministre pour patronner et conduire tout ce processus. Il a été là et d'ailleurs les amis qui sont dans le collectif des sourds ont fait même leur sketch pour montrer l'intégration par rapport à l'emploi. En fait, il y a beaucoup de discrimination dans notre corps de travail par rapport à l'emploi. C'est l'aptitude physique qui est le principe qui est dans notre code, qui est seulement mal appliqué. Et nous avons réfléchi ensemble comment faire de cette condition d'aptitude physique une chance ou une opportunité pour organiser les emplois adaptés, organiser même les aides à l'emploi. Et ces stratégies sont dans ce plan stratégique. Et donc, c'est vrai, c'était difficile pour les personnes handicapées d'accéder à l'emploi, mais avec les stratégies qu'on a fait ensemble, nous allons organiser ça, l'aide à l'emploi, les emplois adaptés. Nul ne peut être discriminé. D'ailleurs, dans le code du travail, il y a tout un chapitre sur l'emploi des personnes handicapées. Donc, il sera juste question de mettre en place pour le ministère de l'Emploi des mesures d'application pour que les aides à l'emploi soient réelles dans notre pays. Et aussi, il y a même quelque chose qui a été proposé encore, qui est intéressant pour le secteur privé. C'est de voir comment donner des avantages, même fiscaux, aux entreprises qui ont un certain quota par rapport aux personnes handicapées. Et voilà pourquoi nous tenons à la loi. Parce qu'il y a un auditeur qui a demandé pourquoi nous tenons à la loi, est-ce que c'est pas un problème de gouvernance? Mais tous ces deux aspects sont liés. Il n'y a pas de gouvernance sans loi, mais enfin. Donc, on ne peut pas dire qu'on va faire quelque chose. Et nous, vous aimerions que cette loi quitte le Parlement. Parce que c'est là où il sera mis en place des principes d'égalité des chances, des principes même des quotas, pour qu'on puisse aussi donner la possibilité à nos compatriotes vivant avec handicap de s'épanouir et de vivre dans le plein emploi comme tout le monde au Congo.
Voilà, c'est un plaisir de vous avoir dans nos studios, Madame Alice Miremo. Nous rappelons que vous êtes directeur général du Fonds national de promotion des services sociaux. Avec vous, on a parlé de comment promouvoir l'intégration sociale des personnes vivant avec handicap. Nous espérons vous retrouver prochainement pour voir comment ça marche avec le plan stratégique.
Nous espérons faire un chemin ensemble parce que c'est l'étape de la vulgarisation et la mobilisation des ressources qui commence.
Merci madame.
Merci beaucoup.